Donc, qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Nous l'avons dit dans ce cantique, nous voudrions être tous sanctifiés par ces réunions et que dans nos vies, il y ait un progrès, une consécration plus grande au Seigneur. Je crois que c'est la prière de chacun ici. Et je dois dire avant de commencer que dans toutes ces différentes réunions dont vous avez eu déjà le plan général qui a été distribué auparavant, personne ici ne peut se présenter comme modèle. Et nous avons tous besoin d'apprendre. Donc aujourd'hui, le titre, Accepter son identité et apprécier les différences hommes-femmes, c'est peut-être un sujet un peu difficile parce qu'il ne faut pas tomber dans la psychologie, ce n'est pas le but ici. Et il nous faut nous appuyer avant tout sur l'écriture. C'est ce que j'ai voulu faire en vous mettant essentiellement le texte biblique que vous avez donc sous les yeux et que nous allons commenter assez rapidement. Je rappelle ce qu'avait dit Bernard il y a une quinzaine de jours, si je me souviens bien. L'idée, c'était d'aller assez vite, en introduction générale, environ une vingtaine de minutes, et puis laisser la place encore 20 minutes ou un peu plus pour que les frères puissent s'exprimer et puis ensuite clore la réunion et laisser la place à un bon moment de questions et d'échanges où chacun est invité à participer. Donc je crois qu'en introduction, donc je dirais que le projet de Dieu, c'est l'harmonie de l'homme et de la femme, c'est clair. Je vais surtout parler du couple aujourd'hui parce que forcément quand on parle de homme-femme, on parle d'abord du couple et j'aurai un certain nombre de versets qui sont les versets fondateurs que vous connaissez tous, qu'on lit souvent à plusieurs reprises et sur lesquels nous reviendrons dans d'autres réunions, mais j'essaierai de ne pas les traiter par exemple dans la perspective du mariage puisque ça sera traité par Jean dans quelques séances. Donc le projet de Dieu, c'est l'harmonie entre l'homme et la femme, mais bon, c'est une évidence. Depuis la chute, les relations sont dénaturées par le péché. Et je dirais surtout par l'égoïsme qui se développe au sein des couples et entre les hommes et les femmes, et qui a rompu cette harmonie, qui était cette harmonie première que Dieu a voulu. Alors ce que je vous propose, parce que c'est un plan qui est commode, pas très génial comme plan, mais c'est pratique, c'est avant la chute, quel est le projet divin, et puis nous verrons ensuite, évidemment, la chute, ce que l'homme et la femme ont fait lors de la chute, et quel est l'enseignement du Nouveau Testament qui vient en quelque sorte modifier, apporter un éclairage un petit peu nouveau. J'ai pris comme référence biblique, comme citation biblique, soit la Darby, soit la Colombe. Donc, vous étonnerez pas si quelquefois le verset est un petit peu différent de celui qu'on trouve dans la Darby, parce que j'avais sous la main cette version de Colombe, donc quelquefois elle est un peu plus claire. Je commence par cette image commune que Dieu donne à l'homme et à la femme, avant toute chose, c'est-à-dire avant, pour ainsi dire, d'une certaine manière, la différenciation homme-femme. Dieu dit, vers Genèse 1, 26, début du verset, faisons l'homme ou l'humain à notre image selon notre ressemblance. Il est frappant de voir que dans ce chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit et il se met à parler, faisons. C'est une expression qu'il n'a pas employée auparavant pour les animaux. On pense tout de suite que l'homme diffère des animaux. Alors, il ne diffère pas des animaux, je pense, par sa complexité, son cerveau, son système nerveux, encore que ce soit peut-être en partie vrai, mais ce n'est pas ce qui le distingue essentiellement. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est son statut. C'est-à-dire que l'homme est en relation avec Dieu. Si vous voulez, la conscience, va devenir, après la chute, cette fenêtre ouverte sur la transcendance, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire sur cette relation avec Dieu. Je passe sur l'expression faisons qui a donné lieu à plusieurs interprétations bibliques. Je dirais que certains ayant vu un pluriel de majesté, en général c'est ceux qui ne connaissent pas l'hébreu parce que le pluriel de majesté n'existe pas en hébreu. Et puis c'est plutôt ce qu'on appelle un pluriel délibératif, mais ce n'est pas notre sujet. À notre image, le A est peut-être un peu difficile à comprendre parce qu'en français on n'a pas bien d'autres solution de traduction, c'est plutôt en tant qu'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme les païens dressent des images, des statues de divinité dans leur temple, Dieu, dans son temple, qui est la création, a dressé son image, qui est l'homme, son représentant. L'homme devient le gérant de Dieu sur la terre. Et l'homme tient son être, sa nature, son essence même de Dieu. Si je voulais dire, l'homme, quand je dis l'homme, vous comprenez, c'est l'homme et la femme ici. Hein. Il n'y a pas encore de distinction homme-femme d'une certaine façon. Donc l'homme tire le reflet de la gloire de son Créateur et il en est le représentant sur terre. Selon notre semblance, certains ayant vu une différence par rapport à l'image, c'est pas évident. Dans le texte hébreu, semble que ce soit pas le cas. C'est plutôt une répétition, comme on trouve par exemple dans Jean 3, né d'eau et d'esprit, ça veut dire né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire d'esprit. Et ici, on aurait à peu près la même expression. Je passe. Un devoir partagé. Deuxième aspect. Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. On voit donc qu'il y a deux missions qui sont données à l'homme-femme, l'humain si vous préférez. Peupler la terre. C'est évident qu'il faut être homme-femme pour cela. Donc ils ont une responsabilité nataliste, l'homme et la femme. C'est peut-être quelque chose à rappeler dans notre civilisation occidentale. Et puis organiser et assujettir la terre, c'est-à-dire que pour cette mission, l'homme et la femme ont une responsabilité partagée. Quand vous allez faire un travail ensemble, dans votre foyer par exemple, je ne sais pas moi, peindre, tapisser une pièce, que sais-je, eh bien il y a un mot-clé qui revient, c'est la coopération. Si chacun part dans son coin, veut décider autrement, ça ne peut pas marcher. Eh bien ici c'est la même chose. Il y a un devoir de compréhension réciproque parce que l'homme et la femme partagent une responsabilité et un devoir devant Dieu. Donc Dieu, dès la création, désire que l'homme et la femme s'entendent entre eux. Et ça nécessite forcément, et chaque mari ici peut le dire de la part de son épouse, de l'intelligence, de la finesse, la volonté de se rendre utile à l'autre aussi et de rentrer dans une démarche commune. Soit dit en passant, mais ce n'est pas notre sujet, on voit que forcément l'homme et la femme sont écologistes. Ce serait un sujet intéressant à traiter. Ils doivent organiser la terre, ce n'est pas la piller, ce n'est pas la détruire. D'ailleurs, je dis en passant, c'est une des caractéristiques de la sainteté de Dieu, c'est qu'il y a une organisation, il y a un ordre dans la création, et le péché, c'est mettre le désordre là où Dieu a mis l'ordre. C'est souvent le cas, notamment en matière de sexualité, nous y reviendrons plus tard. Voilà ce devoir que Dieu veut donner à l'homme et à la femme. Un projet particulier, là je vais aller un peu plus vite. Dieu créa l'homme, alors le est aussi, on pourrait l'enlever, beaucoup de versions ne le portent pas parce qu'en hébreu c'est un hébraïsme, il ne sert à rien en français. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle ou homme et femme. Donc, on remarque que premièrement, l'homme est une créature. C'est jamais dit du Seigneur Jésus. Lui, il est engendré du Père, mais il n'est pas créé. Ça a donné lieu dans l'Église à des débats considérables. Au contraire, donc, Jésus, lui, a la même nature que le Père. Il n'est pas créé, il est engendré. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image? Ça veut dire qu'il a une dignité particulière. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, elle est faite pour dialoguer avec Dieu. Mais surtout dans ce verset, ce qu'on a, c'est qu'il créa, le verset va plus loin, ce verset 27 va plus loin que le début du verset 26. On voit que Dieu invente la masculinité et la féminité, avec les différences physiologiques, psychologiques et les conséquences évidemment sur le comportement. Il paraît que l'homme est plus agressif que la femme. Je dirai rien de la femme, comme ça on respectera nos épouses. Mais c'est vrai que l'homme est souvent beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. J'ai entendu cette semaine une statistique, je ne sais pas si elle est vraie, mais en France, 10% des femmes subissent des violences conjugales. C'est terrible. Six caractéristiques pour l'homme. Donc de Genèse 2, versets 15 à 25. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc l'homme doit gérer et bien gérer ce que Dieu lui prête, d'une certaine façon. L'homme est dans un environnement qui lui permet de vivre, de tirer sa subsistance, et d'avoir les ressources nécessaires à son foyer. Question auxquelles peut-être nous répondrons tout à l'heure, faut-il en conclure que l'activité du foyer dépend du mari? Ou si vous préférez, l'homme au bureau et la femme au fourneau? On y répondra peut-être tout à l'heure. Genèse 2, versets 16 à 17, l'homme obéit à la parole de Dieu. L'Éternel commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc apparemment, au moins pendant un court instant, un court moment, un temps plus ou moins long, plus ou moins court, je ne sais pas, l'homme a obéi. Ensuite, l'homme est patient pour trouver une femme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Alors on voit le défilé des animaux. Évidemment, il n'y a personne qui correspond pour être la compagne de l'homme. Alors l'homme donne des noms à tout le bétail. L'homme a une souveraineté sur la création. Il fait ce que Dieu lui a dit. Il organise la création, comme c'est dit dans les versets précédents. Et il nous est dit, il ne trouvera pas d'aide qui lui corresponde. Donc l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il dormit, prit une de ses côtes, ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci sera os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc voilà, l'homme a attendu, sans doute quelque temps, avant d'avoir une femme. Et vous verrez que, au verset 22, l'homme dit, dans certaines versions, peut-être il y a s'écrit, je ne me souviens plus. En tout cas, il y a un émerveillement, je crois, de la part de l'homme à la découverte de son épouse. Genèse 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme sait gérer les influences de la famille. C'est un verset qu'on cite souvent dans les mariages, mais vous voyez, il sait faire la part des choses, au moins au début. Verset 24b, l'homme s'attache à sa femme, il s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Donc, on voit que ce processus d'attachement, au début, était instantané, quand il n'y avait pas encore la chute. Aujourd'hui, je crois que c'est un cheminement qui est long, qui est plus long, et c'est une discipline pour le mari d'aimer sa femme. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Éphésiens 5. Genèse 2, 25, l'homme, comme la femme, est sûr de son identité. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Nu, ça veut dire dévoilé. Dévoilé, et il n'a pas d'inquiétude sur ce qu'il est. Vous savez, les gens aujourd'hui sont à la recherche de leur identité, alors ils courent tous les gourous possibles et imaginables. L'homme est dans sa simplicité, je dirais, dans son naturel. L'homme et la femme, bien entendu. Et il n'est absolument pas gêné en cela. Il n'y a pas de sentiment de honte. Je l'ai dit plusieurs fois ici, la honte est un sentiment lié au péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur a éprouvé ce sentiment. La chute. Alors je vais passer un peu vite, parce que ce sont des choses que vous savez bien. L'homme tend à être passif devant le mal. Alors ça, c'est l'homme, je dirais, masculin plutôt, hein. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit, en mangea et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Donc il laisse faire. Et ça, je crois que c'est un peu dans notre nature de laisser les choses aller face au mal, de ne pas être révolté par le mal. L'homme éprouve la honte, la peur et la honte. Alors là, c'est l'homme et la femme. On peut dire qu'il le partage. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, je suis nu et je me suis caché. Le péché engendre un malaise. C'est clair. Les premières émotions sont la peur et la honte. Verset 12, Genèse 3. L'homme tend à excuser ses fautes. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc voilà. Il faut trouver un bouc émissaire et l'homme ne va pas chercher bien loin. Il accuse indirectement Dieu et il dit voilà, c'est la femme que tu m'as donnée, et puis il prend sa femme en otage. Vous savez, c'est difficile de vivre avec la culpabilité, alors il faut trouver un responsable. L'homme trouve sa femme comme responsable, c'est quand même pas dans le plan divin, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous lis une phrase que quelqu'un a écrite, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas trouvé l'auteur. Le jour où nous serons prompts à admettre nos fautes devant Dieu et devant nos épouses, c'est que le réveil spirituel en France aura débuté. Le jour où nous serons prêts à admettre nos fautes devant Dieu et devant nos épouses, c'est que le réveil spirituel en France aura débuté. Je crois que c'est vrai. Genèse 3:16b. La femme devient égocentrée et l'homme tend à exploiter sa femme. Et à la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, et en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Deux conséquences graves. Pour la femme, d'abord, elle tend à se focaliser sur des souffrances qui sont bien réelles, et elle attend tout de son mari, pourvu peut-être de se tourner vers Dieu, vers le Seigneur. Et puis l'homme, lui, alors, il a mal compris le mot dominer. Le mot dominer veut dire régner, mais régner comme un bon souverain, un peu, si vous voulez, à la Saint-Louis, pour prendre une image. D'une manière bienveillante, si vous préférez, pas en despote ou en tyran. Et donc, l'homme va se croire qu'il peut écraser sa femme, la dominer en parole, en acte. Et je crois que plutôt que représenter Christ, l'homme se représente lui-même souvent. Un Christ aimant et dévoué pour son épouse, l'homme cherche à exploiter la femme. Genèse 3, 17, 19. À Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie, et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu ne retourneras à la poussière. Donc Dieu rend le travail pénible. Je suppose qu'avant la chute, le travail était agréable. Et l'homme va entretenir avec lui un rapport ambigu, c'est-à-dire tantôt il s'y adonne sans retenue, les gens se lancent dans le travail à corps perdu, tantôt au contraire le travail c'est fatigant, donc on cherche à vivre sans travailler. Ce sont les deux extrêmes. Il faut trouver un équilibre, ce n'est pas toujours facile de trouver un équilibre pour le travail. Le travail valorise d'une certaine manière l'homme, certainement, puisque c'est dans la pensée de Dieu à l'origine, c'est-à-dire que ça lui donne une dignité. Et si vous écoutez les chômeurs, quand ils retrouvent du travail, qu'est-ce qu'ils vous disent? On a retrouvé une dignité. C'est la preuve que le travail, dans son origine, a quelque chose de positif. Et je crois que faire correctement son travail pour Dieu, c'est un service spirituel aussi noble qu'aller en mission au fin fond de l'Afrique, hein.